à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 18h temps universel, dans 5 minutes, à votre avis, avec Eric Manirakiza sur le sida et les préjugés dont sont victimes les personnes qui souffrent de cette maladie. Mais tout d'abord, les nouvelles. Dialogue national au Cameroun, le président français Emmanuel Macron a encouragé son homologue camerounais Paul Biya ce jeudi à mettre réellement en œuvre le dialogue politique dans son pays après la libération de son principal opposant Maurice Kamto, le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Décision saluée par le leader français. Les deux chefs d'État ont eu de rares consultations tête à tête à l'occasion de la réunion du Fonds pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose à Lyon, la troisième ville de France. Le président Macron a qualifié de signal fort la remise en liberté samedi de M. Kamto et d'une centaine de membres du MRC qui avaient été arrêtés fin janvier à la suite de manifestations pacifiques organisées pour protester contre les résultats de la présidentielle camerounaise. Le chef de l'État français a également exhorté Paul Biya à mettre réellement en œuvre le dialogue national engagé ces dernières semaines pour tenter d'apaiser la crise dans la partie anglophone du pays. Selon l'Élysée, le président Biya a assuré Emmanuel Macron de sa volonté d'aller en ce sens. Dialogue politique au Bénin maintenant. Le président béninois Patrice Talon a donné ce jeudi le coup d'envoi du dialogue politique national à Cotonou, la capitale économique du pays. Ces concertations de 3 jours visent à sortir le Bénin de la crise politique qui dure depuis les législatives d'avril. Un défi de taille en l'absence des poids lourds de l'opposition béninoise, notamment Sébastien Javon, le patron de l'Union sociale libérale qui vit en exil en France. Les tensions actuelles dans le pays découlent des élections législatives du 28 avril auxquelles l'opposition n'a pas participé pour la première fois en 30 ans. De nombreux partis n'ayant pas rempli les conditions légales adoptées récemment par le Parlement pour faire campagne en politique. D'où le fait que les formations en question n'ont même pas été invitées au dialogue qui doit durer 3 jours. En signe de protestation, l'opposition organise en parallèle un contre-dialogue à Cotonou, présidé par l'ancien chef de l'État Nicéphore Soglo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, au Ghana, la justice a inculpé 9 personnes pour trahison. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir comploté pour renverser le gouvernement. Yakuba Ouedraogo.
Les suspects qui ont été arrêtés le mois dernier ont plaidé non coupables devant le tribunal d'Accra. Parmi eux, 4 officiers de l'armée de l'air et un médecin accusés d'avoir utilisé son hôpital pour fabriquer des armes en vue de déstabiliser le gouvernement du président Nana Akufo-Addo. 2 autres suspects ont été libérés. Les procureurs ont déclaré que les accusés, qui font partie d'un groupe appelé Take Action Ghana, avaient l'intention d'organiser des manifestations dans le but de renverser le président. « Mes clients sont innocents. Toute cette affaire est montée de toutes pièces et ils doivent être libérés », a rétorqué Maître Victor Adawoudou, avocat de la défense. Le juge a fixé au 28 octobre une nouvelle audience. Le Ghana, considéré comme un pays stable et démocratique, est dirigé par des gouvernements élus depuis 1992. Le pays se prépare à organiser de nouvelles élections fin 2020.
La lutte contre la corruption en Afrique, les États-Unis ont sanctionné ce jeudi les membres de la puissante famille des Gupta liés à plusieurs scandales de corruption en Afrique du Sud. Dans un communiqué, le Trésor américain a accusé Ajay Gupta, Atul Gupta et aussi Rajesh Gupta d'être engagés dans une vaste pratique de corruption et de pot de vin pour obtenir des contrats gouvernementaux en Afrique du Sud. Les suspects ont été placés sur la liste des personnalités faisant l'objet de sanctions américaines qui gèlent leurs éventuels avoirs aux États-Unis et interdisent à toute entité américaine de faire des affaires avec les personnes ciblées, a souligné Sigal Mandelker, la sous-secrétaire au Trésor en charge des sanctions. La famille Gupta, qui a maintenant quitté l'Afrique du Sud pour s'établir à Dubaï, était proche de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Et pour terminer, en Tunisie, les électeurs retournent aux urnes dimanche pour le second tour de la présidentielle après un scrutin législatif marqué par la victoire en demi-teinte du parti d'inspiration islamiste Ennahda, qui a obtenu seulement 52 sièges sur les 217 que compte l'Assemblée. La campagne pour le second tour a repris ce jeudi au lendemain du coup de théâtre de la libération du candidat emprisonné Nabil Karoui, qui dispose désormais de 2 jours pour affronter face à face son rival Kais Saied avant la présidentielle. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.